RMC, les grandes gueules.
Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous gouvernerons pour tous les Italiens. Dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise.
Giorgia Meloni et l'Union des droites italiennes qui a gagné ces élections, la Ligue de Matteo Salvini, le Forza Italia de Silvio Berlusconi devrait avoir la majorité au Parlement.
Oui, après la Suède, l'Italie, l'Union des droites arrive au pouvoir, donc c'est 44% des suffrages si on prend cette alliance des droites et très peu pour la gauche qui subit une débâcle sans précédent en Italie. Giorgia Meloni, ça sera la première femme à accéder au pouvoir en Italie. Il n'y avait jamais eu de femme chef de gouvernement. Elle a le pouvoir, elle aura le pouvoir tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. Alors, c'est amusant, c'est de savoir comment on réagit en France. Il y a très peu de personnalités droites qui ont voulu réagir ce matin en France. Alors, sauf ceux qui sont partisans pour cette union des droites, comme Robert Ménard, qui applaudit. Oui. François-Xavier Bellamy est un des rares chez les Républicains à réagir en disant que ce n'était pas un parti pro-fasciste, qu'il n'y avait pas 25% de fascistes en Italie, qu'il fallait regarder ça avec intérêt, ou en tout cas ne pas forcément crier au loup. On voit bien que tout le monde est embarrassé à droite, parce que moi, je pense que si tu interroges les sympathisants LR, ils sont plutôt favorables à cette union des droites. Si tu interroges, bien sûr, les représentants LR, C'est une autre chose. Alors, est-ce que effectivement, ce qui se passe en Italie, en Suède, va arriver en France dans 4 ans et demi?
32-16 pour le dire au GG. Charles, c'est intéressant.
Moi, je pense que bien sûr, bien sûr, on voit ça. C'est-à-dire qu'on, il y a des similarités qui sont frappantes. D'abord, il y a le RN et Fratelli d'Italia ont le même logo. Avec la même flamme qui est la flamme du fascisme, mussolinienne, hein, quand même. Bon. Et ce sont deux femmes blondes, voilà. Peut-être qu'on se dit, peut-être qu'on y voit des prémices de quelque chose. Je ne trouve pas mes mots quand on fait un rêve.
Prémonitoire.
Prémonitoire, voilà. Peut-être que c'est prémonitoire. Moi, je n'en suis pas convaincu. Je pense que ce qui s'est passé aussi en Italie, c'est que cette Madame Meloni a été extrêmement starisée, à tel point qu'on savait même pas qui était candidat contre elle. On n'entendait parler que d'elle matin, midi et soir. Et elle avait contre elle un candidat très triste qui était Monsieur Letta, qui était vraiment le candidat de l'establishment de centre-gauche, d'un ennui mortel. Et donc forcément, la politique étant pour une part... Oui, c'est comme si vous aviez Madame Borne contre Marine Le Pen. Bon, bah, la politique, c'est aussi un peu de fun, entre guillemets. Mais
quand,
il faut
quand
que
la droite
se passe quelque chose.
Finie, elle arrive au pouvoir.
Alors peut-être. Moi, franchement, d'abord... je constate que c'est, pour ce qui est en tout cas de la France, le RN, une droite qui ne sort pas du tout de l'assistanat, d'échec. C'est une droite qui est dans un état-providence extrêmement prononcé. Donc ça lui fait quand même des différences avec la droite dite républicaine qui est davantage favorable à une réforme de l'État. Et ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est impossible de s'entendre entre la droite et l'extrême droite. Mais je dirais quelque chose qui va... peut-être choqué, c'est que je pense que malheureusement, ce sera peut-être responsable de ce qui nous arrivera si jamais Marine Le Pen est élue dans 5 ans, les progressistes n'ont pas attendu l'extrême droite pour se comporter comme l'extrême droite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'extrême droite? C'est des violences policières, c'est une forme d'autoritarisme intellectuel, c'est un petit climat de censure dans les médias, c'est des brutalités contre les populations faibles, par exemple les migrants, les SDF... Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Des violences policières, un certain autoritarisme intellectuel, un climat de censure dans les médias, des brutalités contre les migrants. Donc forcément, si vous-même, quand vous êtes au pouvoir et que vous vous dites progressiste et que vous passez votre journée à dire que votre combat, c'est de faire baisser l'extrême droite ou de l'empêcher d'arriver au pouvoir et qu'en fait, vous vous comportez comme elle, eh ben, les gens font pas la différence et donc au coup d'après, ils mettent l'extrême droite. Surtout si vous tuez l'alternance, comme l'a fait Monsieur Macron, qui a dit il y a plus de droite et de gauche, il y a des gens raisonnables et des excités. Ben, au bout d'un moment, les gens ont envie de changer et quand ils ont fait le tour des gens raisonnables, ils passent aux excités.
Mais il a raison, Charles. D'ailleurs, comment est-ce que la Macronie, et pas que la Macronie, parce que j'ai lu un très long papier, une enquête très intéressante dans Le Monde, d'ailleurs, sur la question, ils interrogeaient des chercheurs et des Italiens, etc., sur le mot fascisme, et c'est unanime. Même le journal Le Monde dit, on peut pas la qualifier de fasciste.
Pourtant, quand tu entends ce matin les responsables de gauche, le fascisme est à nos portes.
Et alors, voilà.
Les heures les plus sombres.
Eh bien,
de notre
voilà.
Histoire.
C'est pour ça que je vais t'éclairer, Charles, parce qu'il y a deux grands fondamentaux de ce camp progressiste qui leur permet de définir la ligne entre le fascisme et eux. Sont les deux piliers qui leur permettent de dire que Giorgia Meloni est fasciste, c'est que elle serait contre les droits LGBT et elle serait pour réguler l'immigration. Donc on comprend donc que les grands piliers du progressisme macronien, c'est la question des droits LGBT et de ne pas réguler l'immigration. Donc là, je pense que si la Macronie se met sur ces deux piliers-là, c'est même plus qu'ils vont vers l'échec, ils vont vers la phase finale.
Et surtout, il faut simplement préciser qu'elle est atlantiste, elle est plutôt assez pro-américaine. Contrairement à Marine Le Pen, elle soutient sans condition l'Europe contre la Russie.
Exactement.
D'ailleurs, elle a dit qu'elle ne reviendrait pas sur les sanctions. Il y a quand même des différences entre
Mélanie et Marine Le Pen. Moi, juste, je dis un mot, par contre, je pense qu'Ursula a passé une mauvaise nuit et rien que ça, c'est un bonheur pour moi. C'est-à-dire, ce matin, je me suis dit,
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Oui, parce que je l'appelle Ursula, moi, c'est ma copine, que Ursula passe une mauvaise nuit, déjà ça, je suis contente. Maintenant, Fratelli d'Italia a...
Il faut expliquer pourquoi.
Parce qu'elle est trop pas contente.
Non, mais
il y a la Pologne, il y a la Hongrie, il y a la Suède.
A rappelé avant le scrutin que l'Europe disposait d'instruments éventuellement pour sanctionner l'Italie si elle mettait au pouvoir la coalition de droite.
C'est fabuleux. C'est fabuleux. Cette femme-là, on le répétera jamais assez, jamais élue. Cette Ursula von der Leyen, on ne lui doit rien. Elle doit tout à nos gouvernements. Nous, on n'a pas élu cette Ursula.
Elle décide de tout.
Elle est élue par elle du tout. Par contre, elle ouvre son bec.
Elle n'est pas élue au suffrage universel direct, mais elle est quand même élue.
Non, mais soit c'est le peuple qui a le dernier mot. Et dans
on est d'accord.
Elle ne peut pas dire ça avant les élections.
En Europe, il y a encore des nations, il y a encore des gens qui, il y a encore des régimes, il y a encore des institutions et des élections et les peuples votent encore comme ils veulent. Maintenant, c'est sûr, ça leur fait quatre pays qu'elle a en travers de la gorge. Je veux juste dire une chose. Fratelli d'Italia n'a jamais fait partie d'aucune coalition. Parce que le Berlusconi, il est quand même aux fraises. Le Salvini, il s'est quand même pris une grosse baffe. D'accord? Parce que là, il a fait un score lamentable. Oui. Elle, et la plupart des Italiens le disent. Il y en a qui ont voté pour elle parce qu'ils sont d'accord avec cette idée, mais il y en a aussi qui ont voté pour elle en disant, écoutez, c'est la dernière qu'on n'a pas essayée.
Oui,
c'est la dernière qu'on n'a pas testée. On y croit. Eh ben voilà.
Mais Barbara. C'est exactement ce qu'on va faire en France, parce que les partis traditionnels, je sais que ça ne va pas plaire à notre ami Charles, mais ils sont complètement à la rue. Ça ne veut plus où aller. La droite, elle est perdue. La gauche, n'en parle pas. Elle est dans
et
les
Renaissance,
catacombes.
Renaissance, c'est pas
total.
Un parti traditionnel, justement.
Oui, non mais si tu regardes de façon globale, les partis traditionnels sont totalement à la rue parce qu'il y a des problèmes d'ego et de tout ce qu'on peut imaginer dans ces partis-là. Ça, c'est une chose évidente. Moi, je le vois localement. Quand je pense que dans mon fief d'Occitanie, Aude et Pyrénées-Orientales, qui était un fief socialo-communiste à bloc, 7 députés Rassemblement National qui sont élus.
Ah oui.
Le ancien président du département, à qui j'envoie un tweet en lui disant « Putain, il faudrait vous remettre en question ». Il dit « Non, mais c'est pas la question, non, c'est pas tout à fait ça, le problème de la politique de gauche, etc. » En gros, on a 7 députés qui sont arrivés en bas en Occitanie, et ça ne fait que grandir. Remarquez que depuis 20 ans quand même, depuis l'avènement de Jean-Marie Le Pen et maintenant avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on a un parti qui, à mon avis, Jordan Bardella ?
Oui, Jordan.
Il a dit Jordan.
Jordan,
l'Américain.
Donc, si tu veux, ce parti-là va arriver au pouvoir. Et c'est quasiment sûr. Juste sur des problèmes de immigration et sécurité. Madame Le Pen, on ne l'entend pas, elle est tranquille, elle attend que ça se passe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Fratelli d'Italia est désormais majoritaire dans le nord du pays.
Mm-hmm. Ouais.
Là où c'est... Donc, pas seulement dans les zones les plus en difficulté.
Est-ce que aussi ils n'ont pas... D'abord, moi je pense qu'il y a vraiment un truc fondamental qui est l'alternance. Quelle est la différence entre Renzi, Matteo Renzi, le jeune et sémillant Premier ministre de centre-gauche, et Mario Draghi, qui est juste un peu plus vieux et qui est plus triste. Sur le plan des idées, ce sont exactement
aucune
les mêmes.
Différence.
Donc, c'est ça aussi le problème. C'est que quand il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, quand on vous explique qu'en fait, les gens raisonnables peuvent se rejoindre, etc., l'alternance, ça devient l'extrême droite. C'est pour ça que moi, je trouve ce en même temps qu'on a en France depuis maintenant un certain temps, cette histoire de grand bloc central.
Ça a permis à Macron d'être élu aussi.
Oui, ça,
à chaque fois contre la même.
Peut-être ça fait ses affaires à lui, mais ça fait pas les affaires de la France, à mon sens, parce que ça veut dire que l'alternance, ça va devenir l'extrême droite. Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a sorti un nouveau slogan.
Tu tournes autour du pot.
Non.
Parce que la question, elle est posée. Est-ce que les LR doivent s'associer avec RN pour remporter le pouvoir dans 80 ans?
N'oublions pas une chose. Attention, en Italie, Il ne faut pas trop comparer la politique italienne à la politique française, parce que ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, en Italie, Salvini, quand il a été président du Conseil, c'est parce qu'il s'était allié. La Liga, c'est-à-dire la Liga, ça ressemble au Rassemblement National, là, davantage que Fratelli d'Italia, s'était allié au mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire un espèce
Grillo,
de...
Ouais,
BP Grillo. On ne va pas dire que c'est LFI, mais bon,
oui, ça, c'était un Mélenchon.
Petit peu style Mélenchon. Voilà, Mélenchon-Coluche un peu, bon. C'était un attelage absolument improbable. Et d'ailleurs, cette coalition a fini par exploser aussi. Donc attention aussi aux coalitions improbables. En France, je dis pas que LR, RN, ça serait improbable, parce que je pense qu'il y a des gens chez LR, excuse-moi, mais François-Xavier Bellamy, Ciotti ou Wauquiez ont des choses à voir avec le discours aujourd'hui du Rassemblement national de Jordan Bardella. Maintenant, je suis d'accord, Aurélien Pradier et d'autres, c'est sûr, ou même toi, forcément, au RN, je ne vois pas bien ce que vous auriez
dit. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, dis que non, si, ma réponse, c'est non. Moi, je ne pense pas
que... Eh bien, le RN ira au gouvernement tout seul et vous n'y serez pas, c'est tout.
Parce que je pense... D'abord que l'extrême droite a une histoire, je suis désolé, et qu'elle est assez récente.
Pourquoi
en France.
Pourquoi vous faites pas la NUPES de droite?
Et qu'elle est assez récente en France et qu'on n'a pas envie de la revivre. Ensuite, parce que le RN n'est pas un parti réformateur, c'est un parti qui explique toujours aux Français qu'ils ne sont pour rien dans ce qui leur arrive, que les coupables ce sont soit les immigrés, soit les fonctionnaires européens, alors que moi je pense que les Français, on doit se retrousser collectivement les manches, donc ça n'est pas le même projet. Et je pense enfin que l'extrême droite est forte quand la droite est faible, quand et elle ne fait pas... Quand elle ne fait pas un travail offensif pour élaborer son programme, et pour le
Charles,
défendre.
Au rythme où vous allez, en 2027, le Rassemblement national gagnera seul, sans aucun problème, il gouvernera seul et n'aura absolument même pas besoin de vous comme d'une variable d'ajustement.
On verra, c'est dans 80. On va écouter Romain qui nous appelle du 15e arrondissement de Paris. Bonjour Romain.
Oui, bonjour à tous.
Est-ce que les droites doivent s'allier alors et faire comme en Italie?
En fait, je pense pas. Je pense que le Rassemblement National n'a pas besoin d'attendre que les droites se rallient à elle. Je pense que le Rassemblement National va être de plus en plus fort et que malheureusement, le fait que les représentants des Républicains aient du mal à parler de ce qui se passe, c'est-à-dire d'insécurité, d'immigration, de problèmes de la justice.
Ils parlent comme ça.
Toutes ces choses-là. Quand j'entends Charles Consigny qui passe beaucoup de moments à nous dire que la justice est extrêmement sévère et que les policiers, notamment de la BAC, sont très méchants, je comprends que les Républicains en soient là aujourd'hui. Donc,
Renseignez-vous.
Je vois le quotidien. Moi, j'ai ma gamine dans le 15e qui a été agressée au mois de juillet au parc André Citroën, d'accord, par des racailles qui habitent à côté des logements sociaux de Citroën. Mmh. J'ai été porté plainte au commissariat le 6 juillet. Je suis tombé sur un pauvre policier tout seul dans le 15e rue de Vaugirard qui a pris ma plainte à minuit. Ma plainte, ils ont arrêté 4 personnes. Tout le monde a été relâché parce qu'ils avaient moins de 13 ans. C'est le commissaire qui nous a expliqué ça.
En même temps, moins de 13 ans, on n'allait peut-être pas les mettre en taule à 12 ans.
Mais je sais pas, mais en tout cas...
Non,
la seule
je suis
réponse...
désolé, on trouve autre chose quand même.
Bon, alors continuez de
mais
dire qu'il y a
Romain,
pas de problème.
Romain, vous trouvez qu'à 12 ans, il faut mettre les gens en prison?
Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction, ouais, ça sanction. C'est clair.
Oui, mais en prison?
Je dis en garde à vue pour qu'au moins les parents soient obligés d'aller venir les chercher au commissariat.
Il y a des centres éducatifs, il y a ce qu'il faut. Pour...
Et surtout que le commissaire
me dit
que...
Il faut les sortir de leur famille à 12 ans, il faut les mettre...
Oui, il faut une sanction.
Laissez finir Romain, allez-y.
Charles.
Non, pour dire que je constate et que beaucoup de gens constatent au quotidien, parce que c'est la réalité, que la justice, alors je ne sais pas si elle n'est pas assez sévère, s'il n'y a pas assez de monde, en tout cas, j'ai aucune réponse. Moi, j'ai ma gamine de 10 ans qui a été tabassée par des gamins de 12 ans, de 13 ans. J'ai porté plainte au mois de juillet et personne ne m'a appelé depuis. Que ça soit le maire,
qu'elle soit inopérante, c'est autre chose. Quand elle passe, elle est dure.
Donc Romain, non, mais c'est intéressant parce que Romain, vous, votre raisonnement, c'est de dire il est temps qu'arrive au pouvoir, finalement, une politique qui soit dure et qui soit auprès des citoyens.
Je me dis simplement que ça fait 40 ans qu'on vote pour des gens très très intelligents et dans tous les médias, on nous dit de voter pour ces gens-là qui sont très très intelligents et qui sont les gentils par rapport aux méchants d'extrême droite.
Voilà, non mais c'est ça Romain, on vous a surtout demandé de faire
un peu moins.
Non mais parce que Romain, on vous a surtout demandé de faire obstacle au fascisme. On vous a expliqué qu'Hitler était de retour, donc c'est surtout ça le problème.
Moi, j'ai 40 ans, j'ai pas connu Hitler, si vous voulez. Et ce que je vois, et je me suis rendu par curiosité.
J'ai fait ça comme réponse. J'ai 40 ans, j'ai pas connu Hitler.
Alors, Charles, je vais me permettre de dire quelque chose. J'adore la politique. Et je me suis rendu à des meetings. Alors ça va de la France insoumise jusqu'à Zemmour, par curiosité pour voir comment ça se passait un meeting. C'est la première fois que j'y allais. Je vous rassure, j'ai pas vu de poster d'Adolf Hitler dans les meetings de Marine Le Pen. Qu'on soit clair, j'ai entendu des discours plutôt banale, mais plutôt qu'aller dans le bon sens. Donc pour moi, l'extrême droite, c'est pas du tout Marine Le Pen qui l'incarne.
Ni Mussolini en Italie, mon cher Romain, si je suis votre raisonnement. Romain, après vous, on verra ce qu'en dit Sébastien, qui nous appelle, il nous appelle du Var. Romain était 15e arrondissement parisien. Est-ce que les droites ont intérêt à s'allier pour reprendre le pouvoir, comme ça a été le cas en Suède, comme c'est le cas en ce moment en Italie? Bien, la discussion continue avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC. On parle du résultat des élections en Italie. Est-ce que les droites doivent s'allier ? C'est Sébastien qui est avec nous. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans le Var. Vous faites quoi dans la vie, Sébastien ?
Je travaille dans les pompes funèbres.
Ah, il y a du boulot en ce moment ?
Non, c'est calme.
Ça claque un peu ou pas ?
Non, c'est calme.
Vous savez, un petit Covid là pour relancer l'activité Sébastien.
Non, mais Il y a eu moins de morts que d'habitude, parce que le Covid.
Oui.
Bah juste derrière Alain, pour ceux qui sont sur RMC Story, on voit Berlusconi. Je peux vous dire qu'il a presque un pied dans la.
Bah, il est en pleine forme.
Oh, il est embaumé déjà.
Il est déjà embaumé, exactement.
Mais il n'est pas mort.
On dirait une statue de musée grévée.
Bon, allez, on revient à notre sujet de discussion.
C'est impressionnant. Sur RMC Story. Berlusconi, en fait, il ne peut que sourire maintenant, parce qu'il est figé.
Oui, ouais. Et
85
ans,
dis-donc.
Oui. Alors, Sébastien, est-ce que les droites doivent s'allier ou pas en France?
Non, à mon avis, à force de nous parler comme à des gamins et puis à force de nous prendre pour des abrutis, je pense qu'un jour ou l'autre, ça se produira sans la droite, sans les autres droites, pardon. Voilà.
Ah oui, vous êtes un électeur de droite ?
Le RN tout seul.
Non, moi je suis électeur de Marine Le Pen.
D'accord, voilà. Oui.
Elle ne me fait pas peur du tout. On est toujours en train de dire que c'est des extrêmes, mais comment on peut le savoir puisqu'on n'a jamais essayé.
Ça, c'est un des arguments qui était développé en Italie. Oui. On n'a jamais essayé une femme, puisqu'il n'y avait jamais eu de femme chef de gouvernement. Et on n'avait jamais. Mais est-ce que c'est un argument suffisant de dire on n'a jamais essayé ?
Non, c'est sûr. Mais à force de toujours voter contre et non pas pour, on a bien ce qu'on mérite aujourd'hui.
Est-ce que vous voudriez que Marine Le Pen s'allie avec, je ne sais pas, Laurent Wauquiez, par exemple ?
Non, pas spécialement.
Non.
Non. Moi, je pense que au fil du temps, si c'est pas Marine, ça sera peut-être une autre personne du RN qui, à un moment donné, deviendra président. Quoi. Voilà,
alors, ce qui est intéressant, c'est comme vous disiez, on les a jamais essayés. Maintenant, c'est de voir ce que va faire Giorgia Meloni et faire cette alliance des droites, parce que ils ont été élus sur une réduction de l'immigration, un contrôle notamment des eaux italienne pour éviter que les bateaux ne débarquent, une politique familiale, alors un respect de l'Europe telle qu'elle, mais même si cette coalition est plus pour une Europe chrétienne. Des nations chrétiennes, effectivement, avec des valeurs.
C'est toujours, je suis chrétienne, je suis européenne,
alors,
je suis chrétienne.
Il y a eu des scissions au sein du mouvement, notamment sur toute la question de l'avortement, mais il y a une espèce de consensus pour
elle
dire...
a dit qu'elle ne remettrait pas en question le droit à l'avortement.
On ne remettra pas en question le droit à l'avortement.
Pardon, mais... Alors, elle n'est pas pour la GPA, après, pour les homosexuels.
Le problème italien, ce n'est pas celui-là.
Ils ont été réélus sur une réduction massive des impôts en Italie, avec un déficit qui est à 150% du PIB.
L'Italie, il faut quand même préciser qu'économiquement, c'est l'un des pays malades de l'Europe. Nous, on n'est pas très bien
juste
non plus.
Juste derrière la Grèce.
Voilà, mais nous, on n'est pas très bien non plus. Mais donc, il y a aussi sans doute des problèmes économiques à régler.
Mario Draghi. Là,
avec une fracture dans le pays. Et entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud.
L'Italie du Nord qui a voté pour elle.
Mais qu'est-ce qu'il faisait, le Renzi ? Qu'est-ce qu'il a fait, le Draghi ? Non, mais excusez-moi, vous avez eu les plus gros européistes qui passaient leur temps à serrer les vis, à essayer d'imposer justement à l'Italie des systèmes qui ne fonctionnaient pas avec le modèle italien. Encore une fois, je comprends que l'Union européenne ait du mal avec la notion de nation et d'identité des peuples, mais chaque peuple a sa façon, chaque nation a sa façon singulière de concevoir un certain nombre de réformes. Eux, ils décident à Bruxelles, ils ont décidé que tout le monde devait fonctionner sur le modèle allemand, voire néerlandais. Non, désolé, on ne fonctionne pas tous comme les Néerlandais, très bien pour les Néerlandais, grand bien à leur face, les Allemands, grand bien à leur face, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. Les Italiens, c'est une façon, les Portugais, une façon, les Français, une façon. Donc, la question de cette Union européenne qui tient encore par des bouts de chandelle, je vais vous dire, la chance de Ursula von der Leyen et de tous ces européistes-là, ça a été le Covid et maintenant la guerre en Ukraine. Parce que tout ça, ça leur permet de continuer, parce qu'ils ont le robinet à pognon, de maintenir un équilibre qui est complètement, en réalité, complètement en train de s'effondrer.
Néanmoins,
c'est en train de s'effondrer.
Barbara, tu noteras quand même qu'en Europe,
Sébastien.
En Europe, il y a quand même des points communs. Là, comme chez nous, la participation est en baisse.
Oui. Ouais,
fortement.
64%.
Voilà, je crois que c'est quasiment un record.
Ouais,
comme chez nous, c'est effectivement plutôt, enfin, c'est, on va dire, la Marine Le Pen italienne, même si on ne peut pas complètement faire des comparaisons, mais quand même, comme en Suède, on voit quand même que ce mouvement-là est en train de progresser en Europe. Et que la social-démocratie s'effondre. Alors, à part l'Espagne, qui a plutôt voté à gauche, là, la social-démocratie italienne s'effondre, comme elle s'est effondrée en France. Donc, il y a quand même, pour le coup, tu dis oui, et chaque pays est différent. Ben là, pour le coup, il y a quand même des points communs
au sein
de l'Europe.
Mais c'est ce que je vous dis.
Entre ces démocraties.
Ce qui s'effondre,
là,
ce qui s'effondre, c'est ce modèle de société liquide, cette espèce de blob de l'Union européenne, cette espèce de truc unicellulaire, ça n'existe pas. Vous savez ce que c'est le blob ? C'est ni un végétal, ni un animal, ni rien du tout. C'est un être vivant, mais unicellulaire. Ben, l'Union européenne, c'est ça. Elle croit que l'Europe, c'est un blob. Non, c'est pas un blob. C'est un ensemble de nations. Et encore une fois, et toi, Charles, qui est à LR, tu devrais réécouter. Tu devrais prendre 3 heures et réécouter. Écoutez le discours de Seguin à l'Assemblée nationale en 92 sur Maastricht, il avait tout.
Séguin.
C'est tout.
Mais putain, non. Mais pardon de. Non, mais excusez-moi.
Mais écoute son discours sur Maastricht.
Je suis désolé, ça sort du cœur, mais tous ces gens qui nous déterrent Séguin. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, à mes yeux, c'est le fruit d'un travail patient et difficile de ceux qui ont voulu constituer cette Union européenne pour que d'abord les pays entre eux ne se fassent plus la guerre et pour qu'ensuite ensemble ils arrivent à peser face à la Russie, face à la Chine ou face aux États-Unis. Donc moi je pense que c'est une magnifique construction qui nous préserve autant que faire se peut de nos outrances et de nos fièvres à échelon national, notamment par exemple sur la dépense publique. Ou sans l'Europe, je pense qu'on aurait fait faillite en France depuis longtemps, tellement on a la dépense facile. Mais là, ça y est, Macron s'est affranchi de tous les standards européens. Donc, on va aller vers cette faillite grâce à lui. On le remercie. Moi, je pense que l'Europe, c'est au contraire très précieux et que c'est extrêmement facile de taper sur l'Europe pour lui imputer je ne sais quel de nos problèmes. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi l'Europe est responsable d'un quelconque problème, soit de l'Italie, soit de la France, soit par exemple de la Grèce à qui elle a imposé des plans de rigueur difficiles. C'est des pays qui n'étaient pas rigoureux, qui dépensent leur argent n'importe comment. En Grèce, les impôts.
Tu demanderas par exemple
elle leur donne
les
la PAC.
Elle leur
donne des dizaines de millions d'euros tous les ans. Enfin,
qui ne compenseront jamais les dégâts du libre-échangisme. Jamais. Et cette mondialisation catastrophique.
Mais la mondialisation, elle a sorti des centaines de millions de gens de la misère à travers la planète. Mais c'est à nous de nous emparer aussi. Mais excuse-moi, en France, on est un des pays d'Europe, on est sans doute le pays d'Europe qui a le plus de sociétés installées à l'étranger, qui fonctionnent à l'étranger. On exporte des voitures, on exporte des supermarchés, on exporte des médicaments, on exporte des armes, malheureusement.
Tu me reparles de la balance commerciale française.
Sur Google,
elle est largement déficitaire.
Mais parce qu'on crée pas, c'est pas des produits qu'on produit forcément sur le sol français.
Voilà donc.
Mais ce sont des entreprises
françaises. Des ouvriers ailleurs, ça s'appelle de la délocalisation.
Mais parce que ma chère Barbara, le prix d'un ouvrier français, excuse-moi, tu n'atteindras jamais. Quand tu implantes un supermarché en Chine, tu vas pas faire travailler des salariés en France pour faire tourner ton supermarché en Chine. Tu vas mettre des Chinois. En revanche, tu vas en tirer des bénéfices en France. J'invite nos auditeurs à taper sur Google. Vous tapez entreprise française leader dans leur domaine dans le monde. Et vous avez 40-50 domaines dans lesquels ce sont des entreprises françaises qui sont leaders.
Mais comment se fait-il qu'elles ne sont pas leaders ici, qu'elles ne font pas travailler des gens ici,
parce que
qu'elles ne permettent pas de refaire un tissu industriel
à cause de gens
tissu.
Comme toi qui ne veulent pas réformer les retraites, par exemple.
C'est au contraire des gens comme toi qui ont favorisé la mondialisation et le libre-échange.
Les forces d'inertie se lèvent tout de suite. Bayrou, toi.
Ce n'est pas des forces d'inertie, c'est le système
de train qu'on a eu au téléphone.
Que tu défends, c'est le système qui nous a mis dans le mur.
Rien changer.
Qui l'environnement.
Qui ne veulent rien changer jamais. Arrêtez de parler en même temps que je parle. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous quand je
silence
parle.
Pour la France.
Pour la France, taisez-vous.
Il a
qu'est-ce qu'il avait dit
exactement. Silence pour la France.
Silence pour la France.
Il a un côté Mélenchon qui me
Donc, taisez-vous, El Kabash. Tu sais, c'était comment il s'appelait,
Marché.
Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Non, mais on va écouter Christophe qui nous appelle du Var. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour. C'était à propos de l'union des droites.
Mais justement, allez-y, monsieur Christophe.
Voilà.
Moi, je dis que dans l'absolu, ça pourrait être une bonne chose. Mais le problème qu'il y a par rapport à la vision qu'on a de nos hommes et femmes politiques en France, c'est qu'il risque d'y avoir un combat de coq et de poule.
Oui.
Pour être le chef de la droite, c'est ça le problème.
Ah, les égaux,
le chef de file, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour une alliance, mais veut qui être chef derrière l'autre.
Voilà, allez-y. Mais chacun veut être le chef de file, c'est ça le problème. C'est ce que je crains. Et par contre, il faudrait que notre droite s'inspire de ce qui est en train de vivre la NUPES actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire l'union des gauches pour passer au pouvoir, mais le problème c'est que maintenant ils tirent tous dans les pattes. C'est ça le problème.
Et donc vous voudriez une NUPES de droite qui irait, donc, si je comprends bien, des Républicains au RN.
Tout à fait. C'est possible à l'absolu, ce serait l'idéal, ce serait bien, mais qui va être le chef de tout ça?
Mais
c'est
oui.
ça le problème.
Vous savez, Christophe,
aujourd'hui, ça serait Marine Le Pen, puisqu'elle elle a plus de députés.
Non mais
que
vous avez raison sur un point, Christophe, ne doutez pas, hein. Giorgia Meloni, Berlusconi et Salvini, ils s'entendent pas du tout, ils se détestent aussi, donc leur coalition,
comme la NUPES à
leur coalition, elle risque, c'est pour ça d'ailleurs que Giorgia Meloni a un avantage, c'est comme elle a gagné largement et que Berlusconi et Salvini sont quand même aux fraises, elle est vraiment la leader. Donc je suis quand même d'accord avec Christophe. Dans une union, il faut quand même qu'il y ait un fort. Oui. Et c'est vrai que dans la NUPES, le fort, c'est Mélenchon.
Oui, alors, Mélenchon, attends, personne n'a voulu se mettre derrière lui. Quand
allez-y, voilà. Christophe, allez-y.
Oui, non, je disais, la NUPES, ce serait bien comme ça. Mais là, de toute façon, là, c'est le résultat de M. Mitterrand, qui tout le monde sait qu'il a fait monter le Front National pour pouvoir scinder la droite. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la politique de M. Mitterrand.
Oui, enfin, depuis quand même, il
a coulé sous les deux lots.
Oui, mais justement, et le Rassemblement National
oui,
est en
enfin, on ne peut pas toujours dire
je
ça.
Je ne crois pas dans mon cœur. Par contre, je me permets de laisser un message. Je me permets de laisser un message à mes petites chouchous des grandes gueules. Il y a Zour Habitant, Johnny Blanc, Didier Giraud et
Mourad. Ah, ils ne sont pas là.
Ils sont pas là, mais bon, je les apprécie tous, mais les quatre là en particulier quand même. Voilà, Zora, surtout, c'est une guerrière. Est-ce qu'elle est en train de vivre? Ben, on essaie de la soutenir parce que voilà.
Elle était avec nous vendredi, Zora, et on l'embrasse encore. Mourad était là aussi. Mais Johnny reviendra bientôt et Didier Giraud. Je me demande s'il est pas là demain d'ailleurs, Didier Giraud. Non, il sera là après.
C'est l'exemple même du bon sens paysan, voilà.
Mon cher Christophe, merci d'avoir été vous aussi avec nous, d'avoir complété notre discussion. Comme en Italie, une union des droites, en France, voyons quel est votre sentiment, ce que vous en pensez, c'est la question qu'on vous a posée, mais c'est un oui.
Ah ouais.
Vous voyez, c'est un oui à 72%.
Je pense que ça le mérite d'être clair.
Je pense que les électeurs de droite sont favorables, le problème c'est que les dirigeants de la droite, à part Zemmour et Le Pen, ne sont pas favorables.
C'est 1500 personnes qui ont voté sur Twitter en l'espace de 20 minutes.
Je pense qu'en 2027, ça va être difficile. C'est difficile de refaire le même coup que 2017 et 2022, la sérénade.
Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les indiscrets politiques, les indiscrétions politiques, et puis le quiz des GG.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.